le Mac du cours, jusqu'à 19h.
Tout de suite, carte blanche avec Bertrand qui s'acharne à nous décortiquer ce qu'est le plan en séquence, ce qu'est un plan séquence, avec des blind tests auxquels on ne répond pas, même si...
Ça va être encore le cas aujourd'hui, ouais. Je pense.
C'est vrai ? Encore c'est un petit blind test. Bon, bonsoir Bertrand.
Mais je vous aide à chaque fois.
C'est à toi.
Eh bien, bonjour Marie, bonjour Philippe. Oui, ça va vous ?
Ça va.
Ça va.
Très bien, très bien.
Ouais.
Ouais, ça va, ça va.
Oh.
Ça va. Je suis un peu fatigué quand même, un peu triste.
Bah alors.
Bah oui, on s'approche de la fin de cette folle semaine où on aura pu se délester du poids de nos vies rudes dans les salles obscures, où l'on aura fait le plein de sensations, d'émotions, où l'on aura admiré, détesté des images, des visages, où l'on aura tenté de ne pas se noyer dans la mélancolie de ce monde à la beauté vénéneuse. Ce monde si beau et si terrible, ce monde qui bientôt peut-être perdra ses couleurs vives et chatoyantes et mélangées, ce monde qui bientôt peut-être mourra du traitement infâme qu'on lui inflige, des secousses qu'il habite, des drames dont les hommes ne veulent ou ne peuvent se lasser. Blind test. Dans quel film poétiquement tragique ce morceau est-il omniprésent ? Je vous aide. C'est la sonate au clair de lune de Beethoven, bien sûr, ou la mélancolie portée à son suprême degré. Gus Van Sant, réalisateur sensible aux pulsions humaines, décodeur de réalité, use de cette sublime musique dans l'un de ses films totems, relatant une de ses nombreuses monstruosités sauvages et tragiques, carnage lycéen dont la grande Amérique ne parvient à se défaire, les nourrissant même par cette appétence pour la violence des armes, pour la violence des vies. Film palmé à Cannes, lauréat d'un de ses nombreux prix aussi flatteurs qu'inutiles, symbole de la superficialité de nos sociétés consommatrices et divertissantes, qui nous divertissent, nous détournent de quoi ? Sûrement de ces quelque chose dont nous avons vitalement besoin, mais que ce monde ne nous donne que trop rarement. Rêve, amour, compréhension, bonté, fraternité, etc., etc. Bon, allez, on arrête parce que... Alors, on n'a pas trouvé. Un film de Gus Van Sant, Palme d'Or.
Mais il y a deux places en jeu.
Deux places en jeu. Madame ? C'est Elephant. Elephant, exactement. Bravo, deux places pour madame. Ah. Et on arrête parce que hein, on n'est pas là pour philosopher. Alors, dans Elephant de Gus Van Sant, Palme d'Or à Cannes en 2003, le premier mouvement de cette sonate au clair de lune, l'adagio en ut dièse mineur, et comme une marche funèbre, une lettre d'amour impossible qui plane au-dessus du campus, suivant en plan séquence Nathan croisant Brittany, Jordan et Nicole pour rejoindre sa petite amie Carrie, future victime des tueurs fous de Columbine. On a vu hier donc que le plan séquence permettait une immersion dans l'action d'un film en nous rapprochant de la vision humaine continue, apportant un certain réalisme à la scène. C'est donc une continuité spatio-temporelle que le plan séquence nous permet de toucher. Je me suis demandé si cette sensation pouvait se retrouver dans d'autres arts. Et sans chercher bien loin, et aussi parce que, je l'avoue, je porte une affection particulière à cet auteur et que j'adore en faire entendre les mots et les phrases qui coulent et semblent ne jamais vouloir s'arrêter, je me suis dit que Marcel Proust, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, était sûrement l'auteur le plus à même d'approcher ce voyage dans l'espace et le temps. Alors je ne vais pas rentrer dans une analyse plus approfondie de ce parallèle cinéma-littérature, même si ça le mériterait. Juste pour vous dire que la littérature permet bien sûr une grande complexité, une grande variété de sensations. L'écrivain nous parle directement, il parle à notre cerveau, à nos souvenirs et à tous nos sens, et pas seulement à la vision, sens majeur du cinéma, avec Louis peut-être. Et souvent au cinéma, et notamment dans le cinéma de divertissement, la puissance des images permet un abandon devant le récit. Le spectateur devient passif, il n'a que peu d'efforts à faire, contrairement au lecteur qui, lui, va reconstruire un monde entier, guidé par l'auteur. Et celui-ci, l'auteur, peut en outre jongler avec le temps et l'espace de façon extrêmement complexe et variée, et c'est ce qu'on va voir avec Proust. Donc je vais vous lire deux extraits, deux courts extraits d'un petit livre intitulé « Sur la lecture », qui est en réalité une préface d'une œuvre d'un autre auteur qu'on lui avait commandé. Si vous ne connaissez pas Proust, ou si vous êtes un peu rétif à vous engager dans la somme à la recherche du temps perdu, je vous conseille, pour entrer dans son œuvre, ce petit livre, tout du moins la première partie, qui nous livre parfaitement ce qui fait la beauté et la profondeur des pages de Proust, le jeu avec le temps, l'espace, la finesse des analyses des sentiments humains, sans oublier son humour. Alors je commence par le début. Ça nous permet de clarifier l'objet de ce petit livre. Ouvrez bien grand vos oreilles, fermez vos yeux, et plongez avec moi dans la beauté de ces lignes. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin. Le jeu, pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner, pour lequel il avait fallu rentrer, et où nous ne pensions qu'à monter finir tout de suite après le chapitre interrompu, tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle engravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d'amour, que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. Dans la suite, Proust va nous décrire avec force détail tous ces petits moments dans l'enfance où l'on a été perturbé dans nos lectures. Alors je vais sauter de nombreuses pages pour nous retrouver vers la fin avec ce deuxième extrait qui va nous permettre de toucher du doigt le jeu avec l'espace et le temps de Proust. Et quelquefois, à la maison, dans mon lit, longtemps après le dîner, les dernières heures de la soirée abritaient aussi ma lecture. Mais cela, seulement les jours où j'étais arrivé au dernier chapitre d'un livre, où il n'y avait plus beaucoup à lire pour arriver à la fin. Alors, risquant d'être puni si j'étais découvert, et l'insomnie qui, le livre fini, se prolongerait peut-être toute la nuit, dès que mes parents étaient couchés, je rallumais ma bougie. Tandis que, dans la rue toute proche, entre la maison de l'armurier et la poste, baignée de silence, il y avait plein d'étoiles au ciel sombre et pourtant bleu, et qu'à gauche, sur la ruelle exhaussée où commençait en tournant son ascension surélevée, on sentait veiller, monstrueuse et noire, l'abside de l'église dont les sculptures l'âme nuit ne dormaient pas, l'église villageoise et pourtant historique, séjour magique du bon Dieu, de la brioche bénite, des saints multicolores et des dames des châteaux voisins qui, les jours de fête, faisant, quand elles traversaient le marché, piailler les poules et regarder les commères, venaient à la messe dans leurs attelages, non sans acheter au retour chez le pâtissier de la place, juste après avoir quitté l'ombre du porche où les fidèles, en poussant la porte à tambour, semaient les rubis errants de la nef, quelques-uns de ces gâteaux en forme de tour, protégés du soleil par un store, manqués, Saint-Honoré et génoises, dont l'odeur oisive et sucrée est restée mêlée pour moi aux cloches de la grand-messe et à la gaieté des dimanches. Voilà un petit exemple de la phrase proustienne, de son talent pour réveiller des sensations et des souvenirs parfois oubliés à partir de presque rien. Donc je vous engage à lire ce petit livre. J'ai eu du mal à ne vous lire que ces deux extraits tellement il est rempli de pages sublimes. Mais peut-être qu'un jour je ferai une lecture plus complète, peut-être au volcan par exemple. Voilà, ben, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le grand final.
Grand final, merci Bertrand. On attend ça avec impatience. Peut-être merci. Un plan séquence radiophonique.
Peut-être, on va essayer.
Peut-être, on attend.
En tout cas, on s'aperçoit que chaque phrase de Proust est un plan séquence.
C'est ça. Une très grande continuité dans l'espace.
Merci Bertrand.